Les plumes sur RCN, présenté par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux écrivains. Agnès Signani pour son ouvrage Le Lien, publié en auto-édition, et son roman Les Trois Filles de l'Instit, publié aux éditions Maya. Et Raymond Hiss, auteur confirmé, puisque je l'invite pour son 9e roman, Sol Invictus, publié chez Royce Édition. Nous allons faire absent. Vous avez écrit plusieurs romans qui utilisent ce procédé. Pour nos auditeurs, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une uchronie ?
L'uchronie, c'est une branche de la science-fiction. C'est un ouvrage qui peut passer quelquefois pour un roman historique, mais qui prend l'histoire à un moment où elle bascule. C'est-à-dire c'est le grain de sable qui fait basculer l'histoire et qui fait qu'on se retrouve dans un autre univers. On imagine le cas classique, c'est Napoléon a gagné à Waterloo et on se retrouve, disons, dans un autre monde. Mm-hmm. Donc c'est le grain de sable qui fait basculer l'histoire. Et l'uchronie consiste à imaginer à partir de là un autre monde avec des personnages historiques, mais qui ne sont plus dans le même rôle, et puis un certain nombre de personnages imaginaires dans une intrigue originale.
Mm-hmm. Alors comme je le disais, ce n'est pas la première fois que vous publiez des uchronies, mais pour Sol Invictus, vous avez fait fort. Vous ne faites pas que revisiter l'histoire, vous la chamboulez complètement. Le prologue du récit commence en 1176 sur les rives de l'Euphrate, soit en 363 de l'ère galiléenne, après Jésus-Christ pour nos auditeurs. Racontez-nous.
Oui, alors le grain de sable, le roman se passe pour l'essentiel en France au XVIIIe siècle.
Oui.
En l'année 1429, ce qui correspond dans le calendrier grégorien à 1793. Mais l'événement qui a tout bousculé se passe dans le Bas-Empire romain en 365, lorsque l'empereur Julien a affronté les Perses. Alors dans le monde réel, il a été tué, il a été battu. Mmh. Et c'est les empereurs chrétiens qui ont pris le dessus et qui a instauré le christianisme dans l'Empire. Et là, moi, je lui fais gagner cette bataille. Donc, il gagne cette bataille, il revient, il reste empereur, et il instaure le culte d'un dieu qui s'appelle Sol Invictus, le soleil, qui existait déjà, d'ailleurs, ce culte, qui dans le culte de Mithra.
Oui.
Et on nous projette ensuite, ça c'est le prologue, et on nous projette ensuite, 15 siècles plus tard, en France, au XVIIIe siècle, de l'ère grégorienne, du calendrier grégorien. L'Empire romain n'a pas subsisté, bien sûr, donc l'Europe est à peu près identique à celle qu'on connaît.
Mmh. Alors Julien, qui a fondé le nouvel Empire romain d'Occident, a choisi d'établir sa capitale à Lutèce. Bien qu'élevé dans la religion chrétienne, Julien préfère quand même le culte de Sol Invictus, le culte du soleil en fait. Hein. Le soleil triomphant des ténèbres, la raison de l'ignorance. Alors Julien a bien existé, pourquoi le choisir lui ? Qu'est-ce qui vous a donné le...
Ben, j'avais lu, il y a déjà longtemps, deux biographies de Julien. Mmh. C'est toujours intéressant de voir des personnages bon, qui est pas, disons, passé à la trappe de l'histoire, mais d'imaginer ce qui serait passé s'ils avaient subsisté, s'ils avaient réussi à vaincre. Ils auraient pu changer éventuellement le cours de l'histoire. Mmh. On peut appliquer ça à l'époque moderne aussi. Si on prend la Seconde Guerre mondiale, si Churchill ou De Gaulle n'avaient pas existé, l'histoire aurait été certainement très différente.
Oui, oui.
Et là, j'applique également ce principe donc, à l'empereur Julien.
Oui. Mais là, du coup, vous changez toute la face du monde, en fait.
Ah oui, complètement. Oui, oui. Alors, le XVIIIe siècle, j'ai voulu au départ éviter deux écueils, d'écrire une utopie. Mmh. Le monde, cette France XVIIIe siècle, n'est pas un monde idéal. Et sous bien des aspects, il ressemble à notre monde actuel. Mmh. Il ne s'agit pas non plus d'une charge ou d'une charge anti-religieuse. Ce serait totalement ridicule. Mais j'ai voulu imaginer comment une société pourrait exister, disons, sans le christianisme.
Alors nous sommes maintenant le 21 janvier 1793, en 1428 après la fondation du Nouvel Empire. Oui. La Révolution française n'a pas eu lieu et Louis XVI, accompagné de sa femme Marie-Antoinette, arrive à Bordeaux, Burdigas.
Ah, Burdigas, là, oui, les villes ont gardé leur nom romain, bien sûr, quand même.
Oui. Pour l'inauguration de la base spatiale de Samos. Et là, c'est le drame.
Et c'est le drame, oui, parce que Louis XVI, le pauvre, finira mal. Comme dans la réalité, mais d'une façon tout à fait différente.
Ah, voilà, c'est ça.
Et oui, oui.
Oui, vous avez bien respecté la date.
J'ai respecté à peu près toutes les chronologies. Hein. Je me suis bien documenté, y compris sur les personnages. On retrouve des personnages historiques dans leur cadre chronologique.
Oui, oui, oui. Effectivement.
Donc exit Louis XVI et début du règne de Louis XVII.
Voilà.
Qui sera un des règnes les plus glorieux de la royauté française.
Oui, tout à fait. Alors, non seulement vous bousculez notre histoire de France, mais vous anticipez bon nombre d'inventions. Parce qu'ils arrivent à Burdigala en chemin de fer.
Donc... Ah oui, oui, oui. Le chemin de fer existe depuis le XVIe siècle. Hein, depuis, on assiste d'ailleurs dans le roman à l'inauguration de la première ligne,
voilà.
Sous François Ier.
Inventé
par Alcofribas Nazier,
voilà.
Et François Rabelais.
Oui. Dans
l'anagramme. Et oui, parce que le règne de Julien et ce qui s'en est suivi a amené le fait que la science grecque, qui était très avancée déjà à cette époque, n'a pas connu de coup d'arrêt, notamment dans l'astronomie. L'héliocentrisme était déjà pressenti à cette époque. Et ces choses-là n'ont pas cessé. Ça a amené une extension, un développement en parallèle des technologies, ce qui fait qu'on est dans un monde qui a un siècle et demi d'avance par rapport à notre monde réel. Donc le chemin de fer a été inventé au XVIe siècle. Et pourquoi pas le premier satellite artificiel.
Oui. Vous allez fort quand même.
À la fin, oui.
Oui.
pour le reste, c'est pas totalement...
Bon, il faut quand même, là, inaugurer une agence spatiale, quand même.
Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Oui, ça, le présupposé, peut-être un peu... Bon, c'est de l'anticipation, de la large anticipation, quoi.
Oui, oui.
Mais pour le reste, je trouve que ça, c'est tout à fait plausible. Le problème dans l'Uchronie, c'est d'osciller entre le plausible et l'invraisemblable, quoi.
Oui, oui.
Bon, mais là, il y a un enchaînement d'événements historiques qui font que, peut-être, que le chemin de fer aurait pu être inventé au XVIe siècle. XVIe siècle qui voit aussi, qu'on appelle le siècle des Lumières, et qui voit également l'existence d'une grande réforme.
Mmh.
Mais qui n'est pas celle, bien sûr, la réforme à laquelle on a assisté au XVIe siècle dans le monde réel.
Oui.
Donc c'est tout un jeu de clin d'œil entre l'histoire réelle et l'histoire imaginaire, en détournant des faits, en détournant des termes, qui prennent une autre signification.
Mmh. Mais vous inventez aussi quand même pas mal de choses. Alors du coup, je suis allée voir parce que il y a la nitroglycérine. Alors je me dis, mais la nitroglycérine, quel siècle ? Alors donc je vais voir d'avant. Mais c'est vrai que vous nous faites revivre les choses. Enfin, moi qui suis curieuse,
oui.
Je vais rechercher en fait. Mais je me dis, mais non, ça n'existait pas encore à cette époque-là.
Pas tout à fait. Non, il aura fallu attendre encore à peu près un siècle.
Oui,
oui,
c'est ça.
Mais elle est inventée quand même par un Suédois. Hein.
Ah oui, oui. Mais c'est vrai que vous jouez entre la réalité, mais vous partez toujours d'une base réelle.
Oui, oui.
Vous la modifiez dans le temps, mais vous partez toujours d'une base réelle.
C'est le roman peut être apprécié surtout par les gens qui connaissent bien l'histoire réelle, parce que c'est là qu'on voit tous ces clins d'œil. C'est un clin d'œil à l'histoire réelle, notamment par rapport aux personnages historiques.
Oui, ben on va y venir, aux personnages historiques.
Oui, oui.
Alors vous faites revivre certains personnages, comme connus bien sûr, comme Maximilien de Robespierre à Fouché, du prince de Talleyrand à Napoléon Bonaparte, de Lafayette à Chateaubriand. Alors si tous ces personnages sont effectivement contemporains de cette époque, vous les utilisez à contre-emploi.
Ah oui, bien sûr. En général, encore qu'il y a Joseph Fouché, qui se trouve lieutenant général de police, et qui dénoue d'ailleurs, parce que le fond du problème, c'est une histoire politico-policière, qui a fait des misères à Louis XVI. Et Joseph Fouché, c'est un peu il est devenu un petit peu, c'était pas prévu au départ, mais en fait, il est devenu quand même le personnage central de l'histoire.
Oui.
Lui, il est encore à sa place.
Maximilien... Quoi, vous avez réinventé son enfance quand même.
Oui, il a eu une enfance un peu tragique, quoi, auquel on ne s'attendait pas. C'est pas le Joseph Fouché qu'on a connu, mais enfin. Et Maximilien Robespierre, lui, est garde des Sceaux, et finira baron, ce qui est quand même assez surprenant. Quels sont les autres personnages historiques?
Et il était contre la peine de mort.
Il a été contre la peine de mort.
Oui, c'est vrai.
Il a écrit un traité qui a été d'ailleurs primé par l'Académie de Metz, et contre la peine de mort.
Mmh. Et, oui. Et Chateaubriand aussi est là.
Alors Chateaubriand, oui, on le trouve à la fin de l'histoire, à Rome, où il est ambassadeur, et où il a peine à faire lire, à faire accepter son poème de 15 000 ou 20 000 vers sur Moïse, Julien. Moïse, c'est dans le monde réel. Hein.
Oui.
Et il assiste donc avec Juliette Récamier d'ailleurs, au fameux lancement de cette fusée à la fin. Et c'est une illumination pour lui. Il abandonne la versification et il écrit des romans de science-fiction. C'est lui le créateur de la science-fiction en France.
Oui, C'est ça. C'est très, très drôle. Alors, comment vous faites pour ne pas vous perdre, en fait ? Je vous imagine bien avec un petit tableau Excel pour pouvoir remettre tous les personnages, toutes les dates à la bonne...
C'est presque ça. Je suis obligé quand même de mettre en place des séquences, des coïncidences chronologiques, de façon à ne pas faire survivre quelqu'un, au-delà de sa mort, de préférence. Mm-hmm. C'est assez compliqué, quelquefois. C'est un peu un puzzle, quoi.
Oui, oui.
Qu'on assemble petit à petit et qui, à la fin, doit ressembler à ce qu'on voulait faire.
Quoi. Oui, oui. Bon, vous êtes informaticien de métier à l'origine.
Oui, oui, oui.
Alors, on vous imagine bien.
Oui, ça m'a peut-être un petit peu aidé quoi, dans cette affaire-là. Mais il y a des personnages imaginaires aussi. Hein,
Alors, c'est une distorsion complète de l'histoire, bien sûr, de notre histoire. Alors, ça vous amuse, je suppose, mais je me demandais qu'est-ce qui vous donne envie de réécrire telle ou telle période. C'est un fait historique qui donne, ou un personnage, c'est quoi, tout d'un coup?
Si j'essaie de réfléchir à quel était l'événement déclencheur de ce roman, c'est pas tellement l'histoire... Ça a été la découverte, c'est un ami qui m'a donné l'information, de la machine d'Anticythère. Et la machine d'Anticythère, c'est un engin qu'on a trouvé au début du XXe siècle dans une galère romaine échouée près de l'île d'Anticythère. Et c'est un petit appareil qui datait de l'époque grecque, extrêmement compliqué, avec un jeu de rouages extrêmement complexe, et dont on a réussi à décrypter le fonctionnement, et qui était un appareil qui servait à... un appareil d'astronomie qui servait à calculer les phases de la Lune, les éclipses solaires, etc., etc., la place des planètes, ce qui montrait que la science grecque, à l'époque, avait une considérable avance sur ce qu'on pensait ordinairement. Et ça a été un peu été l'événement déclencheur.
D'accord.
Plus que les...
Son roman Sol Invictus, la ville de Dionysia dans la banlieue de Lutèce est sous la coupe des prêtres galiléens. Ces derniers font régner la terreur dans la ville.
Oui, c'est ça. Alors, j'avais dit que les religions avaient disparu dans l'ex-Empire romain d'Occident, mais les sectes ont proliféré dans l'Empire romain d'Orient. Et avec les luttes qui sont produites, bon, un certain nombre de gens sont venus se réfugier dans le royaume de France et sont établis dans la ville de Dionysia. Et notamment une secte particulièrement vindicative, une secte terroriste. Quoi.
Oui, tout à fait. Mais quand on dit, vous les appelez les Galiléens, on pense plutôt à origine chrétienne. Or, c'est pas du tout ça. Ça ressemble beaucoup plus à la culture musulmane, à la religion musulmane.
C'est un petit mélange des deux, quand même.
Oui.
Alors, justement, je n'ai pas voulu employer le terme chrétien ni musulman, pour rester quand même dans un cadre chronique, et j'ai repris le terme employé par Julien lorsqu'il désignait les chrétiens. Il les appelait les Galiléens.
Voilà.
Et il a écrit un ouvrage, d'ailleurs, contre les Galiléens.
Mmh.
Bon, j'imagine qu'il y a eu une espèce, à un certain moment, entre les différentes sectes qui ont proliféré en Orient, qu'il y a eu une espèce de symbiose entre des sectes chrétiennes, notamment les sectes trinitaires, et la religion et les sectes musulmanes. Et c'est ces gens-là qui se sont établis donc, à Dionysia.
Oui, ça ressemble beaucoup à une certaine banlieue de Paris, effectivement.
Bah, il semblerait, oui, c'est une banlieue qui se trouve au nord de Paris, près de la nécropole des rois de France. Mais qui a gardé son nom romain, bien sûr, son nom latin.
Oui, oui. Parce que les femmes sont voilées, les habitants ne doivent pas manger de porc.
Oui.
Hein, c'est ça. Ils doivent aller aux offices, hein, bien sûr, et ils sont surveillés par la police de la pensée.
Oui, c'est ça. Oui, ça rappelle un petit peu de charmants pays, comme l'Arabie Saoudite, ou des choses de genre. Quoi. Donc, coexistent dans cette île de Dionysia les gens appartenant à cette secte. Et dont un grand nombre aurait bien envie de s'en débarrasser, notamment un groupe de jeunes qui s'appelle les apostats.
Oui.
Et c'est cette secte qui sera à l'origine des complots contre le pouvoir royal.
Contre le pouvoir royal.
Et que Fouché s'apprêtera à déjouer avec l'aide d'habitants de Dionysia.
Oui, effectivement. Mais bon, ces prêtres galiléens sont quand même très corrompus. Ils font régner une terreur. Ils imposent des choses qu'ils ne... Enfin, ils s'autorisent eux-mêmes à aller au-delà des lois qu'ils imposent.
Oui, bien sûr. Oui, oui. Bah, c'est le cas de toutes les sectes. Hein. C'est toujours faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et en particulier, ils jouent allègrement avec la polygamie, oui. N'hésitant pas à baisser l'âge de mariage au-delà du raisonnable quand il s'agit des filles.
Oui, oui, oui. Mmh. Bah, les filles, il ne fallait pas être filles hein, dans, ces... dans cette ville, c'était vraiment pas très...
Mais les femmes se vengent au cours de l'histoire.
Oui, c'est ça.
On assiste à un mouvement féministe qui est impulsé par une de ses filles. Oui. Et puis par d'autres personnes, des personnages historiques aussi.
Oui, tout à fait. Alors c'est vous qui écrivez la préface de Sole Invictus. Et déjà, vous brouillez les cartes en faisant croire au lecteur que vous rééditez un texte qui a déjà été publié il y a 150 ans.
Oui, oui ben parce que le livre n'a pas été écrit par moi, mais il a été écrit par Hyacinthe Pilorge, mais on l'apprend à la fin, qui est le secrétaire de Chateaubriand et qui assistait à cette fameuse séance à l'ambassade de France à Rome, quelques temps plus tard. Et il écrira ce livre vers le milieu du 19e siècle environ.
Oui, oui.
Entre parenthèses, ça m'a obligé à employer quand même une langue qui ne soit pas trop moderne.
Non.
Sans vouloir pasticher la langue 19e, parce que bon, ce serait totalement artificiel. Quoi.
Oui, oui.
Donc c'est un niveau de récit supplémentaire dans l'Uchronie, quoi, d'une certaine manière.
Oui, oui. Alors vous parlez du père Pénard. Parlez-nous du père Pénard.
Alors, le père Pénard, c'est un... Bon, d'abord, c'est une auberge qui est près de Dijonisa, où se réunissent les apostats, ceux qui veulent échapper à la pesanteur de la religion. Donc, on y trouve du porc rôti et puis un bon vin, un petit blanc de Suresnes qui apparemment fait l'unanimité. Et le père Pénard, en même temps, c'est un journal, c'est un journal pamphlétaire. Qui est imprimé à Paris et qui tire à boulet rouge sur justement sur cette secte de Dionysia.
Oui, oui. Vous vous êtes fait plaisir là.
Comment ?
Vous vous êtes fait plaisir dans les articles du père Pénard.
Pas mal, oui. Oui. Alors ça fait penser évidemment à un journal de l'époque, le père Duchesne. Mais je crois que j'en ai rajouté encore par rapport à l'aspect ordurier du père Duchesne.
Oui.
Bon, il y a deux, trois articles qui sont quand même pas piqués des vers, mais ça reste encore dans le domaine historique. On est bien dans la presse, ce qu'on appellerait la presse de caniveau, aujourd'hui, qui existait au XVIIIe siècle.
Mm-hmm. Alors là, j'ai donc appris le nom du secrétaire de Chateaubriand. Je n'avais pas connaissance de ce nom-là, on n'en parle jamais.
Il a existé, bien sûr.
Alors j'imagine que l'écriture de ce genre d'ouvrage vous prend énormément de temps. Vous mettez combien de temps pour écrire un tel roman ?
Ça m'a pris une année à peu près.
Ah oui, j'imagine bien.
Le temps de... Oui, c'est long parce qu'il y a des recherches préalables. Il faut que j'ai toutes les séquences en place bien cadrées de façon à ne pas me retrouver au bout de 50 pages et ne plus savoir quoi écrire. Donc j'écris, je mets en place des séquences qui sont des parties du roman. Que je mets dans le désordre et ensuite je les mets en ordre et je commence seulement à écrire.
Alors vous publiez également de nombreuses nouvelles dans diverses revues et je me suis laissé dire que vous aviez reçu récemment un prix pour l'une de vos nouvelles, vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors c'est Cain, j'ai répondu, alors il y a dans la presse spécialisée, sur internet, des tas d'organismes de revues qui font des appels à texte pour des nouvelles. Donc, comme j'avais terminé le roman en attendant le suivant, je me suis remis à faire des nouvelles, j'en ai déjà écrit pas mal avant. C'est un site suisse qui s'appelle WebStory, qui, comme son nom l'indique, publie des nouvelles sur Internet et qui avait organisé un concours de nouvelles sur un thème, qui était la lettre à votre ennemi. Écrivez une lettre à votre ennemi. Donc, j'ai écrit cette nouvelle, Cain. Et elle a remporté le premier prix. Elle va faire l'objet avec d'autres... concurrent d'une édition sur papier.
D'accord.
C'est toujours des uchronies, je crois que je suis tombé dedans, j'ai l'impression que je n'en sortirai pas. Et là, je suis en train de préparer un roman, une uchronie également.
Oui.
En restant toujours dans le même cadre un peu historique, 18e, 19e siècle, une uchronie, cette fois centrée sur Napoléon, c'est le point de rupture de l'histoire, le grain de sable, c'est... Et si le Northumberland, le navire qui l'emmenait à Sainte-Hélène, avait été attaqué par les pirates barbaresques, et Napoléon emmené à Alger, juste au moment où le dé d'Alger vient de mourir, et on lui cherche un successeur.
D'accord. Donc vous allez lui donner beaucoup plus de place que dans Sole Invictus, parce que
Bonaparte... Ah oui, là je lui devais quand même quelque chose. Je l'ai déjà bien arrangé dans une nouvelle précédente, où il terminait comme has-been complètement déclassé comme gouverneur de la Corse. Là, je le fais capitaine des gardes-corps du roi. Bon, c'est pas très glorieux. Donc, il va avoir un rôle quand même un peu plus conséquent. Un peu plus conséquent, oui. Malgré sa chute en 1815, il va retrouver du tonus. Là. Je lui devais ça quand même.
Vous êtes membre fondateur de la Cour de l'Imaginaire.
Oui, alors la Cour de l'Imaginaire, c'est avec deux autres personnes. J'organise des appels à textes de tapuscrits, de romans, dans les domaines de l'imaginaire exclusivement, c'est-à-dire science-fiction, fantastique, fantasy. Et le gagnant de ce concours se voit éditer par justement les éditions Roiz. Donc le concours est ouvert actuellement. Si vous taquinez le clavier, si vous avez quelque chose à nous proposer, vous pouvez nous l'envoyer jusqu'au 28 février. Mmh. Et pour avoir tous les renseignements, le règlement, etc., vous allez sur lacourdelimaginaire.com. La Cour de l'Imaginaire en un seul mot, et vous verrez de quoi il s'agit. Donc c'est on propose une édition à compte.
On écrit jusqu'à son terme.
Mais si tout se passe bien, et s'il n'y a pas de sixième vague de coronavirus, au Salon du Livre de Villers également, le 13 mars.
D'accord. Bon, alors une question, une seule réponse, 30 secondes. Votre écrivain préféré
Je dirais que c'est Chateaubriand.